Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Gabrielle Siri-Wari, maire adjointe du 18e arrondissement de Paris, autrice de La République des Hommes aux éditions Bouquin et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez publié une tribune avec Nicolas Mayer-Rossignol, Lamia Elarage et Claire Fita, tribune intitulée « Violences sexistes et sexuelles en politique, à quand la fin de la zone de non-droit ?» Pour commencer, le combat pour le féminisme est-il pour vous un combat pour l'égalité ?
Oui, évidemment, historiquement, le combat féministe est un combat pour l'égalité, il reste le combat pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et c'est même assez frappant qu'on ait besoin de se poser la question aujourd'hui. Je vois bien d'où peut venir l'interrogation, mais évidemment aujourd'hui, et l'enjeu en particulier en politique, mais pas seulement, c'est d'atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, puisqu'évidemment il y a eu des progrès considérables depuis les années 70, à la fois sur l'indépendance financière, sur la question de la maîtrise de la procréation, etc. Pour autant, l'inégalité salariale aujourd'hui entre les femmes et les hommes est toujours une réalité. On est autour de 25% d'écart de rémunération entre femmes et hommes, si on prend l'ensemble de la population. L'enjeu, c'est l'égalité réelle aujourd'hui entre les femmes et les hommes, puisque les femmes sont toujours victimes d'une domination sociale qui s'appelle la domination masculine.
En droit, l'égalité existe bien. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'application de ce droit ?
Non, c'est pas l'application de ce droit. Et d'ailleurs, si je continue sur l'exemple des inégalités salariales, c'est pas seulement l'application du droit. Alors, il y a une partie d'application du droit, si on prend cette question salariale, pour les discriminations, c'est-à-dire vraiment la partie à poste égal, salaire inégal, ce sont des pures discriminations qui sont interdites en droit français, évidemment. Et donc là, on a un sujet d'application du droit. Voilà, nous, on porte une proposition qui vise à rendre beaucoup plus transparentes les rémunérations des femmes et des hommes dans les entreprises et d'inverser la charge de la preuve sur cette discrimination, c'est-à-dire que, comme c'est le cas en Islande aujourd'hui, les entreprises devraient obtenir un certificat public démontrant qu'elles payent autant les femmes que les hommes à poste égal. Donc ça, c'est pour la question des discriminations, mais c'est pas le seul sujet, puisque cette discrimination, c'est environ 10% des écarts de rémunération. Pour le reste, donc autour d'encore 15%, c'est une question beaucoup plus large liée à cette domination sociale. Aujourd'hui, les femmes travaillent moins parce que elles prennent plus souvent des temps partiels, notamment à la suite de l'arrivée du premier enfant. Et c'est le moment, d'ailleurs, où les salaires décrochent complètement. Et puis, les femmes sont surreprésentées dans des métiers qui sont sous-payés. C'est les fameux métiers du care, notamment à l'hôpital, les aidantes. Ça va être aussi des métiers de service comme les caissières, tous ces métiers qui ont été fortement mis à contribution pendant la crise de la Covid et qui aujourd'hui restent faiblement rémunérés en France, notamment parce que ce sont des métiers féminisés et donc dans l'imaginaire collectif qui sont moins valorisés dans tous les sens du terme. Donc c'est pas seulement une question d'application du droit, c'est aussi une question de lutte contre cette domination sociale. Et donc, par exemple, une proposition aujourd'hui qui est essentielle, c'est de revaloriser ces métiers-là, ces métiers du soin, ces métiers du lien. Et en particulier à l'hôpital aujourd'hui, vu la situation catastrophique de ce service public. Et donc on voit bien que ça va au-delà d'une question d'application du droit, c'est une question de lutte contre les inégalités.
Alors, Gabrielle Siri-Wari, vous avez écrit que le retour prochain à l'Assemblée d'Adrien Quatennens, qui est accusé de violence par sa femme, jetterait le discrédit sur la volonté des partis de gauche de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Au-delà du cas de ce député insoumis, faut-il changer le règlement de l'Assemblée nationale pour que des députés mis en cause dans ce type d'affaires soient systématiquement suspendus ?
Moi, je pense que ça doit donner lieu à des réformes, mais en amont, d'éventuellement se poser la question du règlement de l'Assemblée nationale. Je pense que il y a plusieurs étages auxquels il nous est possible d'agir. D'abord au sein des partis, c'est-à-dire que très souvent, ce qui se passe aujourd'hui pour les personnes mises en cause, c'est qu'il y a eu plusieurs signalements. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Adrien Quatennens, en l'occurrence, mais il y a eu plusieurs signalements qui ont pu avoir lieu de la part de militantes, etc., qui ne sont pas nécessairement traités par les partis ou qui donnent pas nécessairement lieu à conséquences. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des élus qui sont, avant d'être élus, ils sont investis par ces partis. On leur donne l'investiture, on leur donne le droit de se présenter aux élections. Et donc, il faut se poser la question en amont de comment on prend en compte la parole de ces femmes qui disent avoir été victimes et comment on applique une forme de principe de précaution. Donc ça peut être une absence d'investiture, ça a été le cas au Parti Socialiste, par exemple, aux élections municipales dans plusieurs villes. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si on attend le temps de la sanction pénale ou d'une sanction, en tout cas, au niveau de la justice, ça peut durer des années et des années. On sait très bien que pour les affaires de viol, par exemple, ça peut s'étirer sur 8 ans. Et dans cette période-là, on peut avoir des gens qui sont investis, qui se présentent aux élections, qui sont élus, et donc, bien évidemment, qui vont avoir à se prononcer sur les textes à l'Assemblée nationale, sur la question de la protection des victimes, de l'égalité femmes-hommes, etc. Et donc, c'est pas acceptable aujourd'hui. Donc, il faut que les partis prennent mieux en compte cet impératif de traiter les signalements. Et puis, par ailleurs, il faut aussi se poser la question des peines d'inéligibilité. Là, dans ce cas-là, quand il y a eu une condamnation. Donc, il faut agir en amont et puis il faut aussi devoir agir en aval quand il y a une condamnation. Aujourd'hui, en principe, lorsqu'on est condamné pour crime, il y a une peine d'inéligibilité. Le problème qu'on a avec la question des viols, c'est que beaucoup sont correctionnalisés. C'est-à-dire que pour notamment des questions de délai et des questions liées à la faiblesse des effectifs aujourd'hui au niveau des juges, les affaires de viol ne sont pas traitées aux assises et donc ne vont pas être condamnées comme des crimes. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de peine d'inéligibilité. Donc, il faut se poser la question, je crois, collectivement, de pouvoir associer une peine d'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation pour agression sexuelle. Et donc là, on élargirait beaucoup plus le champ de l'inéligibilité.
Êtes-vous favorable à la création d'une autorité unique dédiée au traitement des violences sexuelles en politique ?
Oui, tout à fait. C'est la proposition qu'on fait dans la tribune que vous évoquiez. Aujourd'hui, ce qui se fait au sein des partis de gauche principalement, parce que c'est là qu'il y a le plus de mobilisation des militantes féministes, ce sont des cellules qui sont mises en place et qui traitent les signalements des militantes à l'encontre d'élus ou d'autres militants du parti. Donc en fait, là, la proposition qu'on fait, c'est vraiment une autorité unique commune aux différents partis qui se disent féministes, parce qu'en fait ce qu'on se dit c'est qu'ils partagent les mêmes principes et donc qu'ils partagent la conviction que quand on a commis certains actes, certains délits, certains crimes, on n'est pas digne de siéger à l'Assemblée nationale ou dans toute autre assemblée qui a à se prononcer sur les règles du vivre ensemble. Et le fait que ce soit commun au parti de gauche, ça peut justement permettre de pallier ce problème de conflit d'intérêts, puisque ce ne serait pas interne à un seul parti. Et puis ensuite, ce serait aussi en lien avec un magistrat, afin de s'assurer que la procédure respecte un certain nombre de principes fondamentaux, le contradictoire, la transparence, etc.
Quand on nomme un ou une ministre, on doit s'assurer d'abord s'il n'y a pas d'affaire de corruption. Est-ce que la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique doit élargir ses missions pour vérifier que des ministres ne sont pas accusés de violence ou d'agression sexuelle ?
La question se pose moins si on associe les condamnations pour agression sexuelle de peine d'inéligibilité, même si ça se pose quand même, puisque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a aussi à se prononcer, pas seulement sur les ministres, mais sur d'autres personnes qui peuvent prendre des décisions avec des conséquences importantes. Ça va jusqu'au conseiller ministériel. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, ça se limite à la question du patrimoine. Et donc le signal qui est envoyé, c'est qu'en fait, les questions de probité financière sont plus importantes finalement que les questions de violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut être capable de dire que, par exemple, un détournement de fonds ou un conflit d'intérêts financiers n'est pas plus grave qu'un viol ou qu'une agression sexuelle. Donc effectivement, il faut s'assurer que en cas de condamnation pour ces faits, ce soit connu de toutes et tous et que ça fasse partie de l'exemplarité minimum qu'on exige d'un élu de la République ou d'un conseiller ministériel ou d'un ministre, bien évidemment.
Gabrielle Siri Ouari, vous déplorez le fait qu'il n'y ait finalement pas assez de femmes élues en politique. Pourrait-on décider que la moitié des députés ou des sénateurs seront des femmes ? Il y aurait des sièges réservés.
Il y a plusieurs niveaux dans votre question. Je pense que là, pour la première fois, on connaît un recul de la parité à l'Assemblée nationale. Pour la première fois depuis les années 1980, puisqu'il y avait eu des progrès assez constants et puis un bond de la représentation des femmes au moment de l'adoption des lois pour la parité en 2000 sous Lionel Jospin. Et aujourd'hui, les lacunes qui existent, c'est que il y a toute une partie des élections qui ne sont pas concernées par ces règles de parité, notamment les communes de moins de 1000 habitants ou alors les intercommunalités. Donc, dans ce cas-là, la solution, c'est tout simplement d'élargir les règles de parité, donc d'avoir des listes qui alternent femmes et hommes dès le premier habitant et pour toutes les assemblées. Et ensuite, le deuxième point, c'est que pour les assemblées où ça existe déjà, c'est notamment le cas à l'Assemblée nationale, qu'on n'empêche ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de contournement de la règle de la parité par les partis politiques, parce que, très simplement, les meilleures circonscriptions sont réservées aujourd'hui à des hommes qui ont plus de pouvoir au sein des partis politiques et qui sont capables de s'arranger entre eux, pour le dire un peu vite, pour donc s'arroger la garantie d'être élu sur ces bonnes circonscriptions. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, et ça appartient, je crois, aux partis politiques, et c'est ce qu'on demande dans le cadre du Congrès socialiste, on demande que ce soit fait au sein du Parti socialiste et que ce soit inscrit dans nos statuts, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui se présentent sur des circonscriptions gagnables. Et c'est comme ça qu'on assurera des groupes paritaires, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, notre groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui était paritaire sous la dernière mandature, ne compte aujourd'hui que 30% de femmes. Et c'est pas acceptable. Évidemment, on n'est pas le seul parti concerné. D'ailleurs, le groupe communiste, dans les groupes de gauche, fait pire que nous. Et LR, c'est encore pire, évidemment, à droite. Mais je crois pas que la meilleure solution, ce soit des binômes paritaires, parce que finalement, vous pouvez avoir des binômes paritaires qui sont désignés, et à la fin, la balance penche en faveur de l'homme. Donc c'est pas ça la solution à mon sens, c'est simplement du volontarisme politique au sein des partis pour que les femmes se présentent sur des circonscriptions tout aussi gagnables que les hommes. Et c'est le cas aussi pour les autres élections, comme les élections sénatoriales, où là c'est la question des têtes de liste qui doit être scrutée. On doit avoir autant de femmes que d'hommes têtes de liste aux élections sénatoriales pour s'assurer d'une parité ensuite au Sénat.
Gabrielle Siri Ouari, que demandez-vous au gouvernement pour lutter contre les féminicides ?
Alors, sur la question des féminicides, les associations féministes demandent depuis plusieurs années déjà d'avoir un budget à la hauteur de l'enjeu. Et c'est, comme en Espagne, 1 milliard d'euros sur 5 ans pour lutter contre les violences faites aux femmes de manière générale, mais évidemment aussi les féminicides. Et donc ça inclut des moyens pour la formation des policiers, qui soient à même systématiquement de recevoir les plaintes, ce qui n'est pas encore toujours le cas, parce que quand on est victime, femme victime aujourd'hui, on n'est pas toujours, et c'est un euphémisme bien reçu en commissariat, pour déposer sa plainte. Et donc un budget renforcé au niveau de la police, de la justice, et des subventions d'ailleurs aux associations féministes qui aujourd'hui accompagnent les victimes.
Lorsqu'il y a des violences, comment les femmes peuvent-elles être autonomes sur la question du logement ?
La priorité, c'est de s'assurer que ce soit le conjoint violent qui quitte le domicile familial et pas la femme, comme c'est encore trop souvent le cas. Donc ça, c'est l'absolue priorité. Et de manière plus générale, la raison pour laquelle aujourd'hui les femmes parfois restent dans le logement, c'est aussi pour des questions d'indépendance financière. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes s'arrêtent de travailler ou baissent leur temps de travail et donc baissent leurs ressources financières au moment de l'arrivée de l'enfant ou des enfants. Et puis enfin, quand même préciser que c'est déjà pris en compte par un certain nombre de collectivités, et ça devrait l'être par toutes, puisqu'en situation d'urgence, moi dans le cadre de mon travail à la mairie du 18e arrondissement où je suis maire adjointe, on reçoit un certain nombre de femmes demandeuses de logement social, donc là je parle bien du logement social, et en cas de violence, évidemment, c'est une question donc qu'on pose systématiquement dans l'examen des demandes. Et en cas de violence, ces dossiers sont priorisés dans le logement social. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être généralisé à l'ensemble du territoire. Sur la question du logement social de manière plus générale, il faut absolument poursuivre la dynamique de construction du logement social. Aujourd'hui, ça peut paraître une évidence, mais nous, c'est le cas à Paris, par exemple, la droite parisienne s'oppose systématiquement au projet de construction de logement social. Or, pour les femmes, c'est absolument prioritaire parce que en cas de séparation, leurs revenus chutent de manière vertigineuse, en moyenne, beaucoup plus que les hommes. Et c'est quasiment toujours l'homme qui conserve le logement quand c'est dans le parc privé, alors que quand c'est dans le logement social, notamment parce que les femmes ont, dans la majorité des cas, la garde des enfants, elles peuvent conserver le logement dans le parc social. Et donc, la politique de logement et de construction de logement social est une politique fondamentalement féministe.
Dernière question, Gabrielle Siriwari, dans la perspective du congrès du PS en janvier, pourquoi soutenez-vous la motion refondation avec Nicolas Mayer-Rossignol, Lamia El-Arrage et Claire Fita?
Je soutiens cette motion pour plusieurs raisons. La question féministe est évidemment majeure. On vient d'en parler beaucoup, mais c'est vraiment dans cette motion qu'il y a eu le plus d'écoute aux différentes revendications dont on a parlé tout le long de cette interview, sur la question de la place des femmes en politique, sur la question de la lutte contre les violences sexuelles au sein des partis. Et donc c'est avec cette motion qu'on fait des propositions ambitieuses pour la parité réelle et pour la lutte contre les VSS, avec notamment cette proposition d'autorité unique. Et plus largement, en quelques mots, pour une raison stratégique aussi, je crois qu'aujourd'hui, l'union de la gauche dans le cadre de la NUP, si cet accord a permis de conserver un certain nombre de sièges de députés, il est critiquable aussi à plusieurs égards. Donc déjà, sur la question de la parité réelle, je n'y reviens pas. Mais plus largement, parce que je pense que la gauche, pour qu'elle puisse être en capacité de gagner les élections demain, au niveau local comme au niveau national, il faut que le centre de gravité de cette coalition soit réorienté et qu'on soit absolument clair sur des questions comme celle de notre engagement européen, sur les questions sanitaires. Et je pense qu'aujourd'hui, cette union, elle n'est pas suffisamment efficace puisqu'il y a une prépondérance très claire de la France insoumise qui ne permet pas, je crois, de s'adresser à l'ensemble de l'électorat de gauche.
Merci Gabrielle Siriwari. Je rappelle que vous êtes maire adjointe du 18e arrondissement de Paris, autrice de La République des hommes aux éditions Bouquin et porte-parole du PS. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.